À l'occasion du premier forum Horizon, qui s'est tenu en décembre 2014 au musée du Quai Branly, les étoiles de l'Europe ont été remises à 12 coordinateurs de projets pour leurs travaux européens. Ils ont été sélectionnés par un jury de haut niveau sur de nombreux critères, dont la qualité scientifique, la création de valeur et la dimension sociétale. Et pour cette seconde édition, Franck Duménil a été primé pour le projet EuroBioRef. Franck Duménil est donc lauréat de ce trophée des étoiles de l'Europe. Il est enseignant-chercheur, directeur de l'unité de catalyse et de chimie du solide à l'université Lille, et bien sûr directeur aussi adjoint d'un laboratoire CNRS. Pour le projet EuroBioRef, donc, il s'agit d'élaborer une bioraffinerie européenne intégrée multiniveau pour le traitement durable de la biomasse. Franck Duménil, bonjour.
Oui, bonjour et bonjour à tous.
Donc voilà, on l'a compris, vous travaillez sur des process, une bioraffinerie donc qui va s'inscrire dans les progrès à faire pour la planète.
Oui, tout à fait. Hein. La planète s'épuise. On a besoin de trouver de nouvelles sources, premièrement d'énergie, mais aussi pour fabriquer les molécules qui constituent la vie de tous les jours. Par exemple, les peintures, les shampoings. Ces molécules, en général, sont dérivées du pétrole et il faudra trouver un substitutif, la biomasse, donc les végétaux.
Donc cette réflexion sur la biomasse en complément, pas forcément en substitution dans un premier temps tout au moins, on en est où de ces projets en fait? Est-ce qu'on évolue vite? Est-ce qu'on évolue suffisamment rapidement?
Alors on évolue très très vite. D'autant plus qu'on est un petit peu au pied du mur. C'est comme souvent les étudiants, j'ai été moi-même étudiant, c'est au moment où l'examen approche qu'on commence à paniquer et à faire toutes les révisions alors qu'on aurait pu les faire avant. Là, c'est exactement le même problème. On savait très bien que les ressources sur Terre ne sont pas infinies. Donc les ressources pétrolières ou les ressources fossiles en général, puisqu'il y a aussi le charbon par exemple, ne sont pas infinies. Il en reste encore suffisamment pour ne pas trop s'inquiéter tout de même, mais on sent bien que on va atteindre rapidement des taux de consommation tellement grands qu'on va épuiser de plus en plus vite ces ressources, et on s'intéresse à la biomasse. Et donc il y a énormément d'efforts qui sont lancés pour transformer la biomasse en molécules d'intérêt, donc énergétiques ou chimiques, et la science progresse très très vite. Le point le plus important, ça va pas être la science, ça va être ensuite de trouver des procédés qui sont écologiques et économiques.
Donc actuellement, le monde est face à deux grands défis, on va dire. Il y a le côté trop d'utilisation d'énergie, ça crée du réchauffement, pour résumer, de la planète. Mmh. Et deuxièmement, c'est la ressource qui s'épuise et qu'il faut donc, sinon renouveler, du moins peut-être trouver d'autres moyens, d'autres techniques, d'autres procédés pour amener un complément de ressources. Donc ces projets donc de bioraffinerie, est-ce qu'ils existent déjà beaucoup dans le monde, où est votre projet européen, où est-ce que vous allez l'installer?
Alors, les projets de bioraffinerie, il y en a beaucoup. À l'époque, quand on a lancé le nôtre, il y en avait une certaine quantité, mais maintenant, il y en a beaucoup plus. Les bioraffineries, ça existe déjà, donc ce qu'on peut appeler des bioraffineries constatées. Par exemple, on a dans la région Roquette, hein, qui est une bioraffinerie puisqu'elle part de la biomasse pour arriver à des produits finis. Maintenant, du point de vue de EuroBioRef, on a développé bien entendu d'autres technologies. Il n'était pas question de copier l'existant, mais bel et bien de se baser sur l'existant, hein, par exemple des produits issus déjà de la biomasse, et puis de voir ce qu'on peut en faire en plus, par exemple se mettre en aval, mais aussi développer de nouveaux végétaux, hein, de nouvelles cultures pour développer de nouveaux produits. Donc dans le projet, nous avons 33 brevets qui sont donc des choses nouvelles, inventives, et qui entrent de plus en plus en application. Alors la première bioraffinerie issue de notre projet est en train de se construire en Norvège à partir de ressources forestières, vu que la ressource est sur place. Mais on a aussi, par exemple, un autre brevet issu du projet qu'on est en train de décliner ici sous forme de start-up, la start-up TeamCat Solutions, que nous allons lancer vers juillet de cette année.
Où ça ?
Alors, ça va être ici sur le campus de l'Université de Lille. Et ensuite, on a développé divers procédés qui font appel donc à des catalyseurs. Les catalyseurs, ce sont des substances chimiques qui permettent de faire des réactions données, donc de contrôler des réactions pour donner les produits voulus. Un des freins actuellement à ces technologies est de pouvoir produire des catalyseurs en quantité suffisante. Et nous avons le projet UpCat que nous sommes en train de développer ici en région, qui consistera en une usine qui va fabriquer des catalyseurs pour approvisionner les bioraffineries.
Voilà, donc une bioraffinerie, ça fonctionne avec, on allait dire, des nouveaux carburants qui seront forcément des produits à base de plantes, là,
oui.
En l'occurrence. Il y a donc deux techniques, on va dire. Il y a celle d'utiliser, par exemple, tout ce qui est en fermentation actuellement et récupérer cette énergie. Et puis il y a aussi l'idée de produire des végétaux. Donc de s'associer à des agriculteurs qui vont produire des végétaux spécifiques qui seront rentables pour créer donc ces bioraffineries.
Alors ces végétaux vont être utilisés effectivement pour l'énergie, mais aussi pour les molécules, pour des molécules qui ne sont pas à usage de combustion, en usage de tous les jours. Et effectivement, c'est très important pour ce genre de technologie basée sur la biomasse, d'être en contact avec la source. Autant pour une pétro-raffinerie, la source, on creuse, elle est dans le sol et on va pas avoir une influence majeure dessus. Autant pour les bioraffineries, on peut avoir le choix de cultiver à façon ce que l'on veut. Et pour ça, on a besoin des agronomes, mais pas que. On a besoin aussi donc des fermiers, des cultivateurs. Et dans le projet, ils ont été associés. Parce qu'on a fait par exemple des champs de grande envergure, notamment à Madagascar, mais aussi en Pologne et en Grèce, où il fallait donc enseigner aux personnes qui étaient sur le terrain la manière de cultiver, les bonnes pratiques, combien d'eau il faut mettre par exemple, de combien de centimètres il faut espacer les plantes pour qu'elles puissent pousser le mieux possible. Et en même temps, en retour, ils donnent de très très bons conseils aux agronomes, puisqu'ils sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent bien leur terre, qui connaissent bien la manière dont le végétal va se comporter au jour le jour. Et donc c'est tout un jeu de communication entre les agronomes et les agriculteurs, mais aussi avec les chimistes, parce qu'à la fin, l'utilisateur, c'est le chimiste qui a besoin de plantes, qui va donner des molécules à propriété voulue. Donc ça demande une communication permanente et nouvelle entre des champs disciplinaires qui d'habitude ne se parlaient pas, et on a vraiment besoin du premier maillon de la chaîne qui est l'agriculteur.
Donc les agriculteurs sont des gens précieux et on ne peut que les honorer aujourd'hui, puisque à la fois là ils vont s'engager dans des processus de demain pour trouver des solutions à l'énergie qui manque. Ils sont aussi précieux pour les aliments qu'ils fournissent à la population. Comment on équilibre un peu l'exploitation des sols, en partie pour l'alimentation et en partie justement pour ces nouvelles technologies qui vont, je suppose, mobiliser des espaces qui pourraient être aussi utiles pour de la production destinée à l'alimentation, notamment humaine.
Tout à fait. C'est une des thématiques majeures des bioraffineries, c'est-à-dire qu'il faut ne pas concurrencer l'alimentaire et au contraire trouver soit des petits trucs pour pouvoir faire ces plantes dites énergétiques sur le côté, voire des petits trucs pour augmenter en même temps la production des plantes alimentaires et des plantes énergétiques. Un exemple, parce qu'on a développé énormément de stratégies dans le projet Eurobioref pour être en synergie en fait entre les différentes plantes, c'est des rotations de culture intelligentes. On a eu par exemple des plantes donc à usage industriel qui, lorsqu'elles sont plantées, augmentent la qualité des sols, soit parce que elles métabolisent l'azote pour mettre des nitrates par exemple dans le sol qui sont nécessaires pour les plantes qui vont être plantées par la suite pour leur croissance, soit parce qu'elles détruisent les vermines. Donc si vous plantez ces plantes industrielles, l'année suivante, ou alors les 3 ou 4 mois suivants, suivant le type de rotation que vous faites, vous aurez une culture alimentaire qui aura un meilleur rendement. Par ailleurs, certaines plantes du projet, qui sont utilisables en rotation avec des plantes alimentaires, ont aussi d'autres propriétés, par exemple d'attirer les abeilles, donc on peut produire du miel en même temps. Donc on s'est retrouvé à faire des procédés donc pour la chimie, hein, pour les produits chimiques, pour l'alimentaire, en parfaite synergie, sans gréver le côté alimentaire, bien au contraire.
Est-ce qu'on peut imaginer exploiter, donc pour ces cultures, des territoires, des terrains qui sont pollués? Par exemple, je pense à la Biélorussie où un tiers du territoire est quasiment impropre à la culture normale, vivrière. Est-ce qu'on peut imaginer d'utiliser ces espaces et donc ce qui peut y pousser pour intégrer justement cette transformation dont...
C'est une très bonne question. C'est aussi l'une des stratégies possibles. C'est utiliser des terrains qui ont été rendus pour diverses raisons impropres aux cultures, parce qu'il y a plein de choses néfastes à l'intérieur. Donc on peut mettre des plantes sur ces terrains qui ne vont pas être forcément à usage alimentaire, puisque étant donné tous les polluants qu'il y a dedans, ça serait pas raisonnable. Avec deux effets, le premier effet, c'est un effet qu'on appelle de remédiation, c'est-à-dire qu'à force de les faire pousser, ces plantes vont absorber tous les polluants ou une bonne partie des polluants du sol, donc les sols vont être de meilleure qualité. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pas du tout être en concurrence avec l'alimentaire, bien entendu, vu que on va pouvoir les utiliser pour des applications chimiques sans aucun problème.
Voilà, donc on va parler donc de ce projet pour lequel vous avez une distinction. Et d'abord, cette distinction, elle était adressée à qui? Quel était le public de concurrent?
Donc cette distinction a été mise en place il y a donc 2 ans. C'était la deuxième année, comme vous l'avez souligné en préambule. Et il s'agissait de sélectionner 12 projets européens, parmi tous les projets européens qui se terminaient en 2014 en France. Donc il y en avait, je vais peut-être dire une bêtise, quelque chose comme 160 ou 162, je crois que c'est les statistiques que j'avais vues. Et il y en a 12 qui ont été sélectionnés donc par un jury qui est composé, alors principalement, mais pas seulement, de personnes qui siègent à la direction de ce qu'on appelle les alliances, qui sont des institutions au niveau de l'État qui rassemblent par exemple le CNRS, l'INRA, hein, qui sont des superstructures au-dessus de nos grandes institutions.
Donc Franck Duménil a une distinction comme ces trophées des étoiles de l'Europe. Ça récompense un chercheur ou ça récompense une équipe?
Alors, sur le dépliant que j'ai relu plusieurs fois, ça a récompensé une personne, donc le coordinateur du projet. Mais je pense qu'au-delà de ça, un projet, ça n'existe que quand il y a des bonnes volontés autour. Quelquefois, les bonnes volontés, il faut un petit peu les titiller, les attiser, les défier pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Mais c'est bien le principe d'un coordinateur, c'est de s'arranger pour que tout se passe bien. Et pour moi, c'est une récompense. Personnellement, je le prends comme une récompense d'un travail collaboratif. Et quand j'ai reçu le trophée, ben, j'ai pensé à tout le monde, hein, aux personnes qui m'ont aidé à monter le projet, aux chercheurs qui étaient à l'intérieur du projet, donc qui faisaient les activités de recherche, mais aussi au personnel technique qui réalise des expériences, au personnel administratif, sans qui on peut pas faire le reporting, sans qui on peut pas faire de commandes, sans qui on peut pas voyager pour faire les réunions. Et je pense que c'est vraiment un ensemble, au-delà du chercheur individuel qui est récompensé par ce titre, c'est une équipe multidisciplinaire, donc agronomes, chimistes, des scientifiques et des non-scientifiques, hein, des personnels administratifs. Je pense que c'est vraiment un tout d'ailleurs j'en profite pour les remercier tous.
Donc vous êtes une des 12 étoiles de l'Europe, si j'ai bien compris. Est-ce que dans le cadre de vos recherches, ça peut favoriser, aider, cautionner et notamment la mise en perspective avec des applications ou des structures, des entreprises qui voudraient développer pour elles-mêmes vos compétences?
Oui, c'est vraiment une carte de visite, hein, recevoir un tel trophée. C'est un trophée qui est reçu sur deux types de sélection. La première chose, c'est d'obtenir un projet européen. Et obtenir un projet européen, c'est très compétitif. Donc déjà, c'est difficile. Et il y a une deuxième fourche codine qui est la sélection pour être sélectionné parmi les 12 étoiles de l'Europe. Donc c'est une double sélection. Et je pense qu'effectivement, c'est, comme je le disais, une carte de visite et que ça cautionne un peu les activités qui ont été effectuées. Et je vais dire que je peux en faire la publicité, effectivement.
Donc, Franck Duménil, ce projet EuroBioRef, il s'agit, rappelons-le, d'élaborer une bioraffinerie européenne. Et donc, elle peut se constituer à partir de divers centres, de plusieurs centres ressources qui seraient disséminés en Europe.
Oui, parce que contrairement aux pétro-raffineries, on se retrouve plutôt avec une localisation qui est continentale, parce qu'il faut être près de la biomasse que l'on fait pousser. Par exemple, dans le sud de l'Europe, c'est plus des oléagineux qui poussent bien. Dans le nord, c'est plus ce qu'on appelle des lignocellulosiques, pour faire simple, des forêts, par exemple. Donc la première chose à faire, c'est de la récolter. Donc il y a forcément une unité qui est sur site, la pré-traiter pour extraire les molécules d'intérêt, qui sont ensuite éventuellement exporté sur un autre site spécialisé en chimie. Il ne s'agit pas de déplacer tout un arbre si on a besoin que d'une partie des molécules qui sont à l'intérieur, parce que déplacer de la matière comme ça, ça coûte cher.
Donc voilà, c'est tout un procédé, un process qui engage des partenaires aussi, ou vous travaillez seul, même si vous travaillez à l'échelon européen ?
Non, bien entendu, ça engage beaucoup de partenaires parce que une bioraffinerie, ça assemble énormément de compétences très différentes qui n'avaient pas forcément l'habitude de discuter entre elles. L'agronome va savoir comment récolter, quelle machinerie il faut, parce que si vous plantez, de nouvelles plantes qui n'existaient pas avant, à grande échelle, quand c'est à petite échelle, on les arrache à la main ou avec sa petite fossile, mais quand on veut faire des grandes échelles, il faut une machinerie spéciale. Donc ces agronomes savent à qui s'adresser pour développer la bonne machinerie. Une fois que ces plantes ont été obtenues, il faut en séparer les grands constituants. Ça, c'est une compétence en soi. Par exemple, les papetiers ont ce genre de compétences. Ils savent très bien faire du papier bien blanc en séparant, ça devient technique, mais la lignine de la cellulose. Et ça, c'est une première étape. Ensuite, derrière, il y a le biochimiste ou le biotechnologiste qui sait découper cette cellulose qui a une très grande molécule en petites molécules que le chimiste derrière saura modifier. Donc, et ensuite vous avez l'économiste qui saura si votre procédé permet de générer du cash ou pas, auquel cas il ne va pas durer longtemps. Vous aurez les personnes qui font l'analyse de cycle de vie qui sauront vous dire si vous faites trop de CO2 ou pas, si vous consommez trop d'eau ou pas. Et donc il faut vraiment agréger beaucoup de compétences, et qu'on est à la tête d'un tel projet. Bien évidemment, on ne maîtrise pas toutes ces compétences. Par contre, on sait ce qu'elles peuvent apporter, où elles sont et comment les imbriquer entre elles. Donc, établir ces bioraffineries, ça demande une bonne coordination, mais aussi des compétences qui sont diverses dans les types et qui sont aussi délocalisées, qui ne sont pas forcément au même endroit. Déjà, rien que parce que la biomasse qui pousse à tel ou tel endroit est différente.
Donc, comment on rend cette activité multipolaire rentable au niveau du bilan carbone ?
Alors au niveau du bilan carbone, il y a plusieurs stratégies. Je voudrais quand même faire un petit préambule en disant que ça devient tellement complexe de faire une bioraffinerie que quelquefois intuitivement, on ne peut pas se dire si je change ça, ça va diminuer ou augmenter mon bilan carbone. Ce qu'il faut faire, c'est construire ce qu'on appelle un modèle d'analyse de cycle de vie dans lequel on met toutes les données que l'on connaît, que l'on a mesurées et qui vous donne en sortie le bilan carbone. Et donc, quand vous changez un paramètre, vous le changez dans le modèle vous dit si vous allez dans la bonne ou la mauvaise direction. Maintenant, il y a quand même du bon sens. L'un des leviers possibles, et qui est lui, par contre, intuitif, c'est que pour limiter le bilan carbone, il faut utiliser au mieux toute la biomasse disponible. Par exemple, un procédé pourrait utiliser à 80% de la biomasse pour donner des produits, et 20% de cette biomasse pour créer l'énergie nécessaire à obtenir ces produits. Sinon, on réimporte de l'énergie extérieure qui vient s'ajouter au bilan carbone. C'est un des leviers qu'on a utilisé. Mais il est vrai qu'à la fin, il fallait rentrer dans le modèle développé pour vérifier qu'on n'avait pas fait pire que mieux.
C'est vrai qu'on sent bien cette complexité. En plus, on est sur un territoire de recherche assez nouveau. Vous défrichez en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que quand j'ai lancé mon équipe de recherche donc à l'Université de Lille en 2006, j'avais eu pour mission de développer par catalyse, donc par chimie, les voies de transformation de la biomasse en molécules d'intérêt. À l'époque, ça existait déjà, mais surtout pour les applications carburants, pas pour les applications chimiques. Donc c'est tout nouveau, il faut premièrement utiliser les concepts existants pour les tester sur les molécules issues de la biomasse. C'est ce qu'on a fait. Eh bien, on en a fait le tour. Et maintenant, on développe les nouveaux concepts spécifiques aux nouvelles molécules que l'on a à traiter, puisqu'on les connaît mieux grâce aux anciens concepts. Et maintenant, on développe des technologies qui deviennent différentes des technologies de transformation des molécules pétrosourcées. C'est un nouveau champ, c'est intéressant, il y a plein de choses à faire.
Est-ce qu'on pourrait avoir une idée d'échéancier, c'est-à-dire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, où on devrait en être théoriquement et où on pourra en être de façon réaliste ?
Alors, il y a des cibles, comme vous le soulignez, plus ou moins réalistes. Donc, les cibles, elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, il y a des choses qu'on va pouvoir atteindre. Actuellement, du point de vue des carburants, si on prend les carburants, on a à peu près, en tout cas en Europe, je vais dire entre 7 et 10% de substitution dans nos carburants par des carburants biosourcés. Au niveau des molécules qui constituent la vie de tous les jours, hein, ici dans le studio et d'ailleurs nos auditeurs chez eux ou dans leur laboratoire, où qu'ils soient, s'ils regardent autour d'eux, il y a 95% des objets qui ont vu un produit chimique lors de leur fabrication. Donc ce sont ces produits chimiques qu'on va être obligé de fabriquer. Actuellement, je dirais qu'il y en a entre 10 et 15%, voire un petit peu plus. À l'horizon 2050, j'imagine qu'on serait plus vers 25% de manière moyennement optimiste. Et de toute façon, quand il n'y aura plus de produits pétroliers, ça sera 100%, mais là, est-ce que ça va répondre à tous les besoins ? C'est une autre question.
Qui est-ce qui fixe le cap ? Est-ce qu'il y a un grand décideur mondial ? Ou est-ce que les lobbies pétroliers, notamment, continuent de faire le forcing pour ralentir, freiner ou peut-être gêner vos travaux ?
Alors, au niveau de l'Europe, c'est les institutions européennes qui fixent les caps et qui les révisent régulièrement. Comment ils fixent les caps ? Ils écoutent un peu ce qui se passe au niveau des chercheurs, mais aussi au niveau de divers lobbies. Hein, c'est le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Les pétroliers, si à un moment ils ont été pointés du doigt en disant qu'ils voulaient freiner ce genre de technologie, maintenant c'est plus d'actualité. Par exemple, hein, sans faire de publicité, nous travaillons avec Total, dans mon équipe, sur des produits biosourcés. Et d'ailleurs, on est en train d'écrire un brevet sur le sujet. Donc je pense que les pétroliers, maintenant, s'engouffrent dans la brèche du biosourcé, parce que de toute manière, un jour, ils vont être obligés de se reconvertir quand il n'y aura plus de pétrole.
Donc certes, ils vont se reconvertir. Est-ce que pour autant, cette activité, ces développements seront rentables à court terme ?
À court terme, c'est très difficile de concurrencer le pétrosourcé, d'autant plus que les USA commencent à développer énormément ce qu'on appelle les gaz de schiste, enfin tout ce qui est schiste, hein, ce ne sont pas que des gaz. Donc l'énergie est très très peu coûteuse aux USA. Donc ce qu'il faut faire avec la biomasse, c'est utiliser au mieux les molécules qui sont issues de la biomasse, qui sont différentes des molécules pétrosourcées, pour en faire des produits techniquement encore meilleurs. Et donc justifier l'écart de prix, puisque pendant un moment, l'écart de prix existera dans la majorité des cas. Mais si votre produit est meilleur techniquement, le consommateur est sans aucun doute prêt à payer plus cher pour avoir quelque chose qui marche mieux.
Voilà, merci Franck Duménil donc, pour cette vision optimiste de l'avenir. Et on vous souhaite bonne chance, bon
merci
courage
beaucoup
pour tous ces travaux.
Merci.